Vous écoutez la seconde partie de notre table ronde autour du thème Face à la crise environnementale, quel avenir dans le Nord et le Pas-de-Calais? Il s'agit d'un échange entre le public et nos trois intervenants, Frédéric Motte, Nina Otteket et Paulo Serge Lopez. Si vous ne l'avez pas encore écouté, nous vous recommandons fortement de vous diriger d'abord vers la première partie de cette émission.
On a dit énormément de choses en 1 heure. C'était très très dense. J'espère que vous avez plein de questions et que vous avez voilà, plein de points que vous aimeriez aborder. Pas nécessairement autour de ces trois enjeux que sont les émissions de gaz à effet de serre, l'artificialisation et l'agriculture, mais également voilà, plein de choses se posent dans les plein de questions se posent, pardon, dans les Hauts-de-France et dans le Nord et le Pas-de-Calais précisément. Donc voilà. On va faire tourner un micro dans le public. Je crois que c'est Fanny qui a le micro, absolument. Donc, je vous laisserai hurler Fanny pour avoir accès au micro.
Oui, bonjour. Donc là, on a parlé effectivement de plusieurs choses et notamment de transport. Il y a des choix où il y a de l'argent qu'on va mettre et on va aussi artificialiser. Il y a par exemple l'aéroport de l'Équin. Là-dessus, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de biodiversité, de bien-être au niveau des populations. Et puis, il y a mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui n'est pas forcément vertueux, puisque ce n'est pas seulement des remises aux normes de sécurité. Alors, je ne connais pas parfaitement le dossier, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis sur voilà, est-ce qu'on continue à financer des choses ou laisser financer des choses qui qui sont pas vertueuses, voilà, tout simplement.
Est-ce qu'un de vous trois se sent qualifié, intéressé par la question de l'aéroport de l'île d'Équin, donc au sud de l'île, hein, je rappelle, un projet d'extension d'aéroport.
Effectivement, pour l'aéroport de l'île d'Équin, c'est effectivement le choix qui a été fait par le syndicat mixte où il y a le conseil régional, je précise.
Également le conseil régional.
Le conseil a fait que effectivement il y a un prestataire, un délégataire qui a été choisi. Et effectivement, l'idée toujours, c'est de faire perdurer l'activité de l'aéroport, voire effectivement d'étendre son activité. Ce qui est paradoxal quand vous rondez et vous vérifiez les vols en provenance ou à destination de l'Équin, vous avez encore des capitales régionales en France, globalement. C'est autant je peux comprendre pour des considérations sur à l'étranger ou très éloigné, mais j'arrive toujours pas à comprendre que pour aller à Lyon ou pour aller à Bordeaux, soit encore autorisé. D'où le débat à la fois des associations locales qui sont notamment NADA au niveau sur le territoire métropolitain régional, et aussi le fait d'avoir des actions au niveau législatif pour effectivement qu'on accroisse, qu'on soit plus dur sur les destinations intérieures, parce que ça n'a strictement toujours aucun sens de faire effectivement le côté l'île Bordeaux ou l'île Lyon, alors que l'île Lyon c'est 3 heures. Pour aller en train, l'île Europe jusqu'à Lyon-Perrache ou Lyon-Part-Deux, c'est bien 3 heures. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et le signal politique donné fait que c'est une politique du en même temps. Les mêmes personnes vous diront qu'elles veulent développer les trains. Sauf que c'est un peu antinomique. Et c'est l'argent public à utiliser. Donc autant qu'elle soit utilisée à bon escient et que au-delà de l'aspect en même temps, il faut faire des choix. Et donc au choix, autant faire sur des modèles qui soient vertueux. Et je ne crois pas du tout au côté modèle vertueux de l'avion zéro carbone.
Pardon, Frédéric Motte, vous êtes président de Rêve3, je rappelle pour les gens qui écoutent le podcast.
Moi non plus, je ne crois pas à l'avion vertueux à court terme. Et oui, d'en provoquer certains, mais et pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de décarboner Arcelor. La priorité, c'est de décarboner vos bagnoles. On fait les 20-80. Et l'avion, c'est alors suivant, on peut pas laisser 1 à 2%. Donc évidemment, il faut de la sobriété. Donc je vous rassure, c'est pas votre pognon, hein, parce que ce serait une délégation donc c'est pas votre. Non, mais c'est important. C'est pas. Oui, donc mais c'est un type, il l'assume, etc. Donc c'est pas votre argent via vos impôts. Mais j'entends bien, et moi, quand on parle de sobriété, c'est de se dire comment dans nos usages, quand je vais à Lyon, demain soir je vais à Lyon, je prends le train, en 3 heures j'y suis. Ça, dont acte. Je vois la sobriété, elle commence par ça, par tout à chacun. Maintenant, oui, en provocation, l'avion, oui, j'y crois pas. Et donc, c'est ne nous, si on veut casser les rêves de tout le monde, etc., et autres, et dire, vous prenez plus jamais l'avion de votre vie, moi, je crois qu'on va faire pire que mieux. Et donc, ayez un usage raisonné de l'avion et puis ponctuellement, quand vous allez loin et autres, utilisez-le. Pour l'instant, concentrons-nous sur vos bagnoles, sur Arcelor, sur votre logement qui est mal isolé, sur notre agriculture. Et puis, si d'ici là, on ne trouve pas de solution, c'est pas parfait, mais c'est un compromis, parce que demain, vous coupez tous les avions. Et à mon avis, vous aurez des surprises le jour où il y aura des élections. Mais le compromis, allez.
Ouais. Oui, c'est ça, la citoyenne, là, c'est la citoyenne qui va parler. Il y en a qui préconisent 4 ou 5 vols dans une vie. Personnellement, je trouve que ça va. C'est bon. Et ça, aussi, personnellement, je trouve qu'avoir un train qui va à Charles de Gaulle en même pas une heure et qui va à une navette pour Charleroi, c'est déjà pas mal. Et en effet, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller trop près. Prendre l'avion pour Lyon ou même maintenant le sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, je suis désolée, mais finalement, on doit arriver à l'avance. C'est très compliqué aussi, c'est aussi long au final, donc je ne vois pas du tout l'intérêt.
Très bien, j'espère qu'on a un peu répondu à vos attentes. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public?
J'en ai 3 là pour l'instant.
Fanny, fais tourner.
J'ai retenu madame.
Bonjour à tous. Je me posais la question de savoir si être écologiste, c'est être forcément de gauche.
Frédéric Mott.
Ça, c'est une bonne question. Non, on n'est pas en toute. On est là pour discuter de manière conviviale. Et c'est mon combat, c'est justement de dire que c'est un truc qui est universel. On n'est pas l'écologie, elle est de droite, de gauche. Elle est surtout pas extrême. Parce que là, je l'assume. Sous couvert d'écologie, il y en a qui vous font passer une pensée trotskisto, je sais pas quoi, etc. Par contre, moi, ce qui m'embête là-dedans, je l'assume. Non, mais on est là pour. Je vous donne mon point de vue. C'est que il y en a certains qui disent, et pas tous, c'est pour ça que je ne les mets pas tous dans le même sac, mais il y en a qui disent, c'est le côté pastèque. C'est vert au-dessus, c'est rouge à l'intérieur.
Avec moi, je dis. Point noir pour les anarchistes aussi.
Exactement. J'ai dit tout à l'heure, c'est les deux extrêmes. Mais la droite, historiquement, n'était pas très enclin à ces sujets-là. Le débat fait, et la société, c'est vous, citoyens, qui fait que la droite se dit, et j'ai quand même intérêt à prendre ça en compte, parce que sinon, je ne serai plus élu, etc. Et donc, c'est en train d'évoluer. Je pense que Xavier Bertrand, il est un petit peu, même s'il le dit, mais ce qu'on est en train de faire dans les Hauts-de-France, c'est assez unique. Quand vous discutez avec l'ADEME, ils nous disent, la région de France où ça bouge le plus, c'est ici. Et si je vais à Lyon en train demain, c'est pour aller récupérer un prix jeudi matin, parce qu'on est la région, justement, en termes d'initiative. Alors, ce n'est pas encore suffisant, c'est peut-être la face immergée de l'iceberg, mais le claquement de doigts qui fait que du jour au lendemain, on va y arriver, j'y crois pas. Et donc, le succès de l'écologie, c'est quand, justement, elle sera pue par certains, elle sera prise en compte par tout le monde.
Je ne sais pas, là, c'est encore une fois la citoyenne qui parle, mais est-ce que la sobriété ne serait pas de gauche?
Alors là, je vous laisse... Je vous laisserai méditer ce propos. J'ai envie de poser une question. Vous parlez de... Oui, vous parlez de d'extrémisme. Est-ce qu'en même temps, une situation climatique extrême qui inquiète, de l'urgence, n'appelle pas une forme d'extrémisme, ou en tout cas de radicalité?
Après, on le voit bien, on en voit s'exprimer des deux côtés. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, mais moi, je suis légitimiste. Et donc, dans ma ville, il y a un élu, c'est lui qui a le truc. Si je ne suis pas d'accord, je le fous dehors. Mais bon, après, il y en a qui veulent aller se coller les mains, etc. Chacun a son truc. Mais...
Est-ce qu'on peut... Les deux interviennent.
Paulo Serge, allez-y.
Juste un point, juste de tac au tac. La question de la démocratie ne se réduit pas à mettre un bulletin dans un urne tous les 5 ans. Et qui ferait qu'en fait, on donne un quitus à une personne pendant 5 ans ou 6 ans. Donc, ce qui fait que l'action de la démocratie ne se réduit pas simplement à cet acte tous les 5 ans, et qui fait qu'il y a toujours une démarche perpétuelle tous les jours, parce que chaque acte d'élu, chaque prise de position, heureusement, il y a des grincheux, enfin, ce que vous direz grincheux ou extrémiste, D'aucuns diraient que c'est plutôt des esprits critiques là-dessus. Donc effectivement, c'est pour ça que je ne donne pas quitus par principe là-dessus et que tout acte politique, un plan local d'urbanisme, une politique de transport, est toujours effectivement critiquable, en bien ou en mal, c'est selon. Juste pour rebondir sur la question un peu tartare à la crème, parce que l'écologie de gauche, en fait, je répondrai à côté à la question effectivement de savoir si on accepterait qu'il y ait toujours des postures productivistes et très techno. Moi, je suis plutôt sur ce prisme-là. C'est-à-dire que vous pourrez trouver aussi à gauche des gens qui ont un prisme très productiviste du style « l'avenir, c'est toujours la consommation et qu'on continue toujours la consommation ». C'est plutôt là-dessus. Donc, moi aussi, ma grille de lecture serait aussi sur les questions de est-ce qu'on donne les clés du camion en quelque sorte ou les clés du vélo à une posture technologiste ou est-ce qu'on est dans l'idée de s'interroger d'abord sur la question des besoins à l'instant présent et à l'avenir et comment, après, on s'interroge sur la production et pas l'inverse. Et je reprendrai l'histoire de la question automobile qui est très prégnante sur le territoire. Est-ce que ça a du sens en soi de s'esbaudir sur des usines de batteries électriques qui en fait vont fournir dans les modèles actuels des SUV de 2 tonnes, 2 tonnes 5 qui vont plutôt, et dont les gens qui sont en capacité de les acheter, c'est plutôt une classe supérieure et qui en fin de compte ne répond pas aux besoins de mobilité de la majeure partie de la population. Et ça le paradoxe, c'est-à-dire que les modèles que vous avez à l'état actuel sur le marché automobile électrique, c'est plutôt des modèles assez conséquents SUV. Et même pour les voitures thermiques, en l'état actuel, vous avez très peu de personnes qui achètent plein pot. C'est souvent le marché de l'occasion marche très bien. Donc la question, je reviens là-dessus, s'interroger d'abord sur la question des besoins et que la démocratie, elle se fait tous les jours. Voilà.
Juste sur la question de l'extrémisme, les scientifiques, enfin, beaucoup de mes collègues scientifiques se posent la question eux-mêmes de leur rôle et finissent par se poser cette question de l'extrémisme. Alors, pas forcément, je ne vais pas encourager la violence et tout ça, rassurez-vous, mais il y a un groupe qui s'appelle Scientifiques en rébellion qui se pose cette question-là. Alors, en effet, il faut quand même voir que 1962, Rachel Carson publie son livre « Printemps silencieux ». Son livre « Printemps silencieux » résulte de plus de 10 ans de tentatives qu'ont eu les scientifiques déjà d'expliquer les problèmes des pesticides et des produits chimiques sur la biodiversité, les conséquences que ça va avoir sur l'humanité, parce que bien évidemment, on ne peut pas se passer de cette biodiversité, on ne peut pas se passer des pollinisateurs, etc. 1962, ça fait plus de 60 ans, si je compte bien. C'est effrayant. On en est encore à recevoir des injonctions, à faire encore plus d'études. Oui, mais vous êtes sûr que celle-là, elle est encore pas vérifiée? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas en faire une plus grosse? Il y a eu une interview il n'y a pas très longtemps de nos politiques à la sortie du Sénat, je crois, où c'était exactement ce qui leur était répondu. Donc oui, la question de l'extrémisme se pose peut-être, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être entendu. Il y a des consensus scientifiques et qui ne sont pas entendus. Donc il va falloir, à un moment donné, montrer qu'on agit et qu'on entend. Et c'est, bon, l'extrémisme, on ne va jamais le défendre hein, en tant que tel. Mais bien évidemment, la question se pose de plus en plus. C'est le problème de l'écoute.
Oui, le besoin d'être entendu sur les questions environnementales, alors que pendant des dizaines d'années, ça a peut-être manqué. Et aussi bien d'ailleurs de la part de la gauche que de la droite, c'est un problème politique global. J'imagine qu'on pourra le discuter plus
mais
tard.
Mais ça manque toujours. Enfin, en 2019, je crois, est publié un article qui montre qu'on a perdu 75% de l'abondance d'insectes volants. 75%. Donc vous imaginez bien, vous avez certainement, pour beaucoup d'entre vous, déjà vu que vous aviez, quand vous étiez plus jeune, une foultitude d'insectes écrasés sur vos pare-brises, mais maintenant on ne les voit plus. Alors, cet article, il a été forcément critiqué. On a remis en cause. On a dit, vous ne pouvez pas chercher encore un petit peu plus. On a refait des études. En Angleterre, ils ont fait la même chose avec les plaques d'immatriculation. En Danemark, ils ont fait la même chose avec les pare-brises. Tout le monde a le même résultat.
Très bien, je vous remercie. On va passer aux questions suivantes, si vous voulez bien.
Oui, je voulais revenir sur la question des consommateurs. Parce que, voilà, j'ai l'impression que, notamment vous, monsieur l'élu, vous attendez de l'action de la part des consommateurs. Mais est-ce que les consommateurs ont vraiment besoin de prendre conscience? Est-ce qu'il n'y a déjà pas une conscience du réchauffement climatique? Et est-ce qu'il n'y a pas juste un sentiment d'impuissance qui fait que les consommateurs aujourd'hui ne vont plus agir? Et du coup, ma question c'est, est-ce que on doit attendre que ce soit les consommateurs qui changent dans le bon sens, quoi?
Je sais pas on doit tous répondre à ça. Moi, en tant qu'élu, mais pourquoi j'aurais plus que vous la bonne réponse? Alors, à un moment, vous m'avez donné mandat, quoi, moi, entre guillemets, mais à nous, élus, vous nous avez donné mandat pour porter un projet. Alors, j'entends bien, moi, ce n'est pas un mandat, un blanc-seing pour X années. Il y a des enquêtes publiques quand on fait des projets, il y a des etc. et autres. Il y a des rendez-vous intermédiaires avec d'autres élections et autres. Ce sont des signaux que vous nous envoyez. Alors après, on peut débattre là-dessus, mais moi, en tout cas, modestement, quand je me suis engagé, c'était dans... J'essaye, en tout cas, au quotidien, de servir l'intérêt général. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je le fais en fonction de mes idées. Je vous écoute, ça m'interpelle, ça me fait réfléchir, ça me motive à avancer peut-être plus vite, plus fort. Après, il faut avoir du courage politique, hein, faut oser dire, tiens, on défend tel truc, parce que quand je rentre chez moi, je me fais alpaguer par mon voisin et autres. C'est pas le système parfait, je me dédouane pas derrière ça, mais de temps en temps, en boutade, je dis on a les élus qu'on mérite. Et ben oui, mais si quand j'ai 20 personnes qui viennent me dire tiens, tu te ferais bien de regarder un petit peu plus près, je peux vous dire que quand, et je vous entendais, et quand je porte mes messages, de temps en temps, je suis pas forcément écouté. Et ben quand je viens avec beaucoup plus d'arguments, ben j'ai envie de me battre pour les défendre et faire bouger les lignes. Et de temps en temps, je gagne, de temps en temps, je gagne pas. Mais c'est comme ça. Et c'est sûr que le jour où le citoyen en tant qu'électeur, le consommateur, il n'a pas la fin en soi, mais c'est un élément de plus. Le monde associatif, quand il vient nous interpeller, etc. C'est tout ça qui fait le vivre ensemble. Puisque la finalité, on parlait de violence parfois ou d'extrême, c'est comment on essaye d'avoir un vivre ensemble où on a envie de préparer un avenir pour ses enfants, on prépare l'avenir de la planète, on a, soyons égoïstes un peu aussi, on a une qualité de vie, etc. Bon an, mal an, on s'en sort quand même pas si mal. Néanmoins, j'entends bien que le chemin devant, il y a un certain nombre de nuages. Moi, je crois résolument, je suis peut-être naïf, utopiste, mais je crois résolument à la fois en un mix de la sagesse du citoyen avec cette notion de sobriété et dans l'innovation pour trouver le compromis acceptable pour essayer d'avancer.
Je vous remercie. Question suivante, peut-être ?
Donc, il y a le monsieur là et ensuite madame.
Alors, bonjour, je m'adresse aussi à monsieur l'élu. Vous nous avez expliqué que 20% de nos émissions de CO2 sont dues au transport. Je comprends l'emploi que va créer les mégafactories à Dunkerque. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi plus de 11 000 TER ont été supprimés dans la région en 2022. 2021, c'était plus de 7 000. Et 2020, c'était plus de 5 000. Si je ne me trompe pas, c'est une compétence de la région.
Monsieur Frédéric Motz.
C'est énormément et c'est frustrant ce truc de dingue. Parce que l'État a dit, dans sa grande sagesse, et ça, moi je trouve ça bien, je suis pour la décentralisation, il a dit les collectivités, je vous donne, entre guillemets, les transports en le TER. Et donc c'est une compétence de la région. Sauf que le personnel, c'est pas nous. Les lignes, c'est pas nous. Nous, on est juste bons pour acheter les trains. Et donc, quand le personnel fait grève, les gens se retournent vers nous. Quand la SNCF a mal planifié ses formations d'agents, etc., paf, ça marche pas. Et les gens se retournent vers nous. Oui, un truc tout bête, c'est les lignes SNCF. Nous, on veut développer le TER. On voudrait qu'il y en ait plus, convaincus. Donc quand vous payez votre billet, vous ne payez même pas un quart du prix. Hein. Le reste, c'est, collectivement, sont nos impôts. C'est la région qui reverse ça. Donc on verse, je crois, 800 millions tous les ans. L'étoile de Saint-Paul, c'est la région qui a mis 80 millions. Alors que normalement, la voie ferrée, c'est une compétence de l'État. Donc c'est 80 millions de votre argent que vous nous avez donné pour faire éventuellement du meilleur foncier, de l'agriculture bio, qu'on est obligé de mettre pour restaurer cette ligne. L'État a dit... Ah bah tiens, on va plus mettre de contrôleurs dans les trains. On dit mais ça va pas. Ah, Moi, j'ai décidé que j'arrêtais. Donc, c'est vous, si vous voulez, vous le faites. 60 millions. Ping ! On met 60 millions. C'est 60 millions qu'on ne met pas dans ça, etc. Après, il a dit, bon, on ne va plus mettre plus personne dans les gares. On dit, mais ce n'est pas possible. Ah bah, si vous voulez mettre quelqu'un de temps en temps, 30 millions. Bing. Et donc, tout ça, c'est du pognon qu'on met. Et c'est là où c'est frustrant, c'est qu'à la fin, et vous avez raison de nous interpeller, c'est que le citoyen qui est pâleur, mal assis, voir son train supprimé, eh bien, il vient nous voir nous en disant, eh, les gars, vous déconnez, ça ne marche pas, mon TER, il n'est pas bon. On se bat au quotidien, on est en train d'acheter des nouveaux trains. C'est votre pognon, on va y mettre plus d'1,5 milliard, je crois, durant le mandat, pour essayer d'améliorer ça. C'est pas la solution magique à tout le transport, mais c'est une des solutions. Je peux vous dire que les équipes s'y battent au quotidien. On n'a pas toutes les rênes. Moi, je rêve du jour, s'il fallait avoir un coup de baguette magique, c'est qu'on fasse une vraie décentralisation. On vous dit, on vous donne tout. On vous donne le pognon aussi, hein, parce qu'on nous dit souvent, on vous donne tout, mais on vous donne pas le pognon. Et puis après, moi, je suis prêt à aller venir vous voir et en disant, allez-y, critiquez-moi si on n'est pas bon. Mais là, à juste titre, vous venez me voir, mais je n'ai pas toute la réponse. Et donc, ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières années, c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Nous, à la région, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, à un moment, on a dit, on refuse de payer. Parce que tout le personnel, il payait pas l'argent de la région. Et donc, pendant plusieurs mois, on a dit, on refuse de payer. Ça s'est un peu amélioré. Et là, donc, on n'a pas ce qu'on appelle une privatisation, comme le disent certains, mais il y a un appel à concurrence. Et alors, ce qu'il y a de dingue, mais ça, c'est des trucs juridiques, c'est qu'on a fait un appel à concurrence sur certaines lignes. C'est la SNCF qui a remporté le marché, alors que c'est déjà le cas. Mais du coup, elle a pu répondre avec d'autres critères. Et donc, logiquement, le jour où ça va être mis en place, dans un an ou deux, on aura un service bien mieux, avec des exigences bien plus fortes et des pénalités bien plus fortes quand ils ne répondront pas au cahier des charges. C'est comme ça.
À moins que l'un de vous deux souhaite répondre, on passe à la question suivante. Fanny arrive avec le micro.
Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mott, vous venez de souligner aussi le rôle du politique par justement le désengagement de l'État. Et moi, j'ai bien retenu que vous soulignez le rôle du citoyen et de l'innovation technologique. Mais moi, je voudrais vraiment rappeler aussi le rôle du politique, le rôle du politique régional et le rôle du politique à l'échelle de l'État, puisque la transition, on doit s'adapter au réchauffement climatique, aux différents enjeux environnementaux. Il y a l'adaptation et il y a aussi la transition à faire, mais on sait très bien que la transition environnementale ne peut pas se faire sans justice sociale. Et il y a tout le rôle du politique, moi, que j'aimerais qu'il soit aussi axé, parce que si on compte que sur le consommateur et sa carte bleue, bah, les plus riches pourront toujours s'acheter un SUV électrique, mais les plus pauvres, c'est toujours eux qui vont être relégués à l'extérieur. Et donc moi, là-dessus, bah, je pense que vous aurez... Enfin voilà, je vous parle, mais tous les trois auront quelque chose à dire sur le rôle du politique pour justement faire que cette transition soit aussi sociale. Et on a également parlé donc de réchauffement climatique, artificialisation, agriculture, mais je dirais la crise environnementale, parce que moi je pense qu'on est en urgence climatique et vraiment en crise environnementale, elle se joue sur toutes les ressources, et notamment une ressource qui est extrêmement importante, qui est l'eau. On a parlé vraiment aussi de le fait qu'on soit dans une région côtière avec du polder, donc il y a aussi tout l'accès à l'eau. Là, on en a aussi parlé, en tout cas concernant aussi la compétition entre l'eau pour la consommation humaine, l'eau agricole et l'eau pour, je dirais, l'industrie. Et là-dessus, moi, j'aimerais aussi là-dessus qu'on en parle, parce que si on parle aussi, par exemple, innovation technologique, on sait que, par exemple, si on passe des énergies fossiles à de l'électricité, ça va nécessiter énormément de métaux. Alors certes, ce ne sera pas des métaux qui seront forés en région Nord-Pas-de-Calais, mais qui vont venir d'ailleurs. Donc là, je pense qu'il faut... au départ, on a dit qu'on ne parlait pas des émissions emportées, mais là, je pense qu'il s'agit vraiment de passer global au niveau de notre impact.
Il y a deux heures pour parler. Mais sur le fond, attention, hein, je ne veux surtout pas me défausser en disant c'est vous, consommateurs, qui avez la solution. Je dis qu'on l'a collectivement. Et donc, nous, on a notre part dans les politiques qu'on mène et qu'on met en place, et je l'assume totalement. Et vous voyez, quand on me demande de faire un exposé sur Rêve 3, je dis toujours que notre raison d'être, c'est de construire un monde qui soit plus durable et plus solidaire. Parce que si, justement, quand je vous parlais d'appropriation citoyenne, si on laisse des gens sur le côté ou si on laisse des territoires sur le côté, oui, ça va nous revenir en boomerang. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Et je peux vous dire que Xavier Bertrand, là, alors après, je ne veux pas rentrer dans les... Mais sur un certain nombre de politiques, mais ce qui l'intéresse, c'est le citoyen. C'est monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, qui habite aussi bien à Friville-Escarbotin qu'à Château-Thierry. Là-dessus, on est extrêmement attentif. Un autre point sur l'eau, là, pas pour me défausser, mais on est cinglé en France. Vous savez que la machine qui nettoie vos trottoirs ici, c'est avec de l'eau potable. Avec de l'eau potable. On est le pays au monde qui utilise le moins les ressources des stations d'épuration. 0,5%. Il y a une usine de frites là, qui est en train de se construire à Dunkerque. On a dû se battre comme des chiens, et heureusement le préfet nous a suivis, parce que pour nettoyer les pommes de terre qui sortent du champ, il fallait de l'eau potable. On est cinglés. Il y a des wateringues qui vont se jeter dans la mer. On a enfin obtenu à titre dérogatoire, qu'on utilise cette eau pour laver les patates. Elle est retraitée et puis elle est remise dans le truc. Oui, il y a des vraies évolutions à faire parce qu'on sait que la notion d'eau sont des trucs extrêmement importants. Et donc, là, ouais, c'est un combat de tous les jours, de vous, de nous, les premiers. Hein, je l'assume, si on est élu, c'est pour aller au charbon là-dessus. Et donc, l'eau, c'est évidemment un enjeu extrêmement important. Ce n'est pas une compétence de la région, mais je peux vous dire qu'on y travaille beaucoup parce que pour faire venir des entreprises, pour alimenter nos habitants et autres, on aura besoin d'eau.
Et surtout, on devra la préserver. Et je pense vraiment à la lutte contre l'artificialisation qui, par rapport justement aux étés qu'on va avoir et qui sont déjà là, puisqu'on a vu quand même avec l'été dernier un emballement par rapport à la crise climatique. Moi, il y avait aussi un aspect que, dont on...
Un complément, c'est sur la notion d'eau et même le lien avec l'agriculture. Si on prend simplement le cas du territoire métropolitain, 30 à 40% de l'eau potable est puisée ailleurs sur la Lys. Je donne l'exemple, le restant, c'est sur des nappes sur le territoire. La question de travail commun entre territoires est indispensable. Sinon, on aura des risques, non pas tant d'inégalité sociale d'une population d'un même secteur, mais d'inégalité entre territoires. Donc la question de donnant-donnant entre territoires est essentielle, ce qui fait que, si on prend même le cas sur le Domarois, c'est le Domarois qui fournit le Calaisis et le Dunkerquois. Vous n'avez pas de puits sur le territoire du polder, ça n'existe pas. D'où la question indispensable entre des bassins de vie, de travailler sur qui sait que le Domarois, vous dites le monde de la culture biologique, pour qu'in fine, vous ayez de l'eau potable, réellement potable, pour les populations environnantes. Donc c'est une question de donnant-donnant entre bassins de vie. Certains ont des ressources économiques importantes, certains ont des ressources agricoles, certains ont... D'où la question aussi du rôle aussi de la région en tant qu'ensemblier pour faire dialoguer les territoires, pour qu'il y ait un contrat social aussi entre territoires. Et la question, c'est quand on dit on perd le Nord, bon, est-ce qu'on perd le contrat social qui va avec? Je précise d'emblée. C'est-à-dire, est-ce que le flanc intérieur, Péval Carambeau avec la MEL peuvent travailler de concert? C'est la question aussi se pose.
Mais ils travaillent de concert, puisque en fait, l'eau, c'est géré par ce qu'on appelle les agences de bassin. Et donc, sur notre région, on a deux agences de bassin, parce que vous le dites à juste titre. L'eau, c'est entre la Mel et l'eau d'Omarois, ce sont deux intercommunalités, mais c'est le même bassin. Et donc, on a des agences de bassin, et c'est au niveau de ces agences où il y a des schémas de préservation, etc. Mais le combat, il est colossal là-dessus. Hein.
Et on va retourner...
Ouais, j'avais juste un dernier point, c'était on a parlé justement d'emploi, on a parlé de biodiversité, on a parlé de la nature, mais nous n'oublions pas aussi la santé, puisque un des grands enjeux aussi, c'est la santé humaine et c'est la santé environnementale. Et, voilà, donc, et je vais juste terminer, une personne avait posé la question de savoir si la sobriété était de gauche. Moi, je dirais qu'en tout cas, la sobriété est anticapitaliste.
Question suivante. Pardon, plus personne n'a de questions. Si, devant, pardon.
Je rebondis sur la santé. Je m'appelle Anne-Sophie Foureau, je suis médecin anesthésiste à Lens. J'endors, il y a une maternité, il y a des enfants, tout ça. J'endors de plus en plus d'enfants qui ont des malformations urogénitales. Je suis à Lens depuis 2006 et j'en vois de plus en plus. C'est pas, et il n'y a que deux chirurgiens qui opèrent ces enfants. Enfin, bref, il y a un chirurgien qui est à Lille et un chirurgien qui est à Lens. Donc ceux que je vois plus, c'est pas qu'ils sont partis ailleurs, c'est qu'il y en a réellement plus. Mes collègues pédiatres, pareil, j'endors des enfants pour des IRM. Il y a de plus en plus de troubles du spectre autistique. Après, je pense qu'il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi les écrans. Donc ça, je passe. On sait aussi que les agriculteurs, c'est comme les mineurs il y a 50 ans. Ils sont très fiers de leur métier, mais ils en crèvent. Ils crèvent de maladies de Parkinson, de maladies dégénératives. En général, 10 ans plus tôt que le reste de la population. Donc, est-ce que votre rôle d'élu n'est pas aussi de protéger la population ? Merci. Je vois aussi beaucoup de couples qui ont des problèmes d'infécondité. Voilà, merci.
Je me permets peut-être, Nina Otoket.
Non, non, mais
effectivement, on fait face à des cocktails de produits chimiques qui sont tous plus ou moins connus pour être néfastes. Alors, on a la difficulté qu'un certain nombre de perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui va dérégler notre système hormonal et qui peut donc créer des problèmes reproductifs, des problèmes de cancer, un état de problème, tous ces perturbateurs endocriniens agissent à des doses infinitésimales. Ils sont bien plus graves à des doses infinitésimales qu'à des doses élevées, avec des courbes qui ne sont pas linéaires, des courbes de réponse qui ne sont pas linéaires. Donc la difficulté, on sait que tout ça a des effets, et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore... on sait aussi que les effets cocktails sont plus dangereux, même si on ne peut pas étudier tous les cocktails. Donc on peut parler des pesticides, mais il y a tout un tas de molécules dans notre environnement, en particulier des retardateurs de feu dans les tissus, des phtalates qui sont liés, si vous prenez de l'eau en bouteille, il y a des phtalates, si vous prenez des peintures, des vernis, il y a des phtalates, ce sont des molécules qui vont donner de la souplesse au plastique, en fait, et donc on trouve ça dans presque tous nos produits plastiques et vernis et peintures, etc. Et donc oui, on doit absolument agir. Il y a les pesticides, mais il y a plein d'autres choses.
C'est super compliqué. Il y avait toute une étude ces jours-ci sur les réseaux sociaux, justement sur un article de je ne sais plus quel canard, qui se plaignait sur entre du bisphémol. Alors je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais qui, dans les biberons, etc. Et c'est de dire, mais est-ce qu'il vaut mieux laisser mourir le gamin ou il faut le soigner avec un produit qui a du bisphémol ? C'est cruel. Moi, je suis plutôt à dire, si on peut le soigner, même si ce n'est pas parfait. Par contre, la législation européenne, justement, hier, on était avec des gens de la chimie, il y a une prise, on ne va pas refaire le passé, il y a eu certainement des comportements où on se dit, tiens, ça nous donne une solution à court terme, donc on prend, et on n'a pas mesuré les conséquences à moyen long terme sur un certain nombre de produits, c'est indéniable. Il ne s'agit pas de s'en satisfaire ou pas, c'est comme ça. Par contre, ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui nous présentait dans les évolutions de la réglementation européenne, il y a des exigences de plus en plus fortes, et tant mieux pour que justement toutes les études se fassent pour que, en termes de conséquences, on puisse justement y pallier. La difficulté que nous rapportaient ces entrepreneurs, c'est qu'au niveau européen, on est de plus en plus vertueux, et tant mieux, et il faut y être, parce que vous parliez de solidarité. La solidarité, elle se fait aussi par la santé qu'on peut apporter. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans un monde globalisé, et il y en a qui sont moins vertueux que nous. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Ce sont des compétences de niveau national, mais ce sont des vrais sujets qui doivent être pris au niveau européen, qui, je pense, au vu de ce que j'ai pu entendre, mais je ne suis pas un spécialiste, semblent être de plus en plus prises. Peut-être pas à hauteur suffisante, mais de plus en plus prises.
Si quelqu'un souhaite poser une autre question, n'hésitez pas à lever la main. Oui, allons-y.
Tac. Je ne sais pas qui avait...
Monsieur au milieu...
Merci pour vos interventions, c'était vraiment très riche et très intéressant. Alors ma question est la suivante, j'aimerais savoir ce que vous entendez précisément par extrémisme, que le mot a été prononcé plusieurs fois. Et quand le mot a été prononcé, c'est la métaphore de la pastèque qui a suivi, donc voilà, vers l'extérieur, rouge à l'intérieur, noir avec les pépins. Mais moi je me demande si l'extrémisme n'est pas plutôt, par exemple, la réaction des actionnaires de Total qui ont tenu leur assemblée... Leur assemblée générale, il n'y a pas très longtemps, il y avait un actionnaire qui avait agressé un militant qui manifestait en disant « Je m'en fous de votre planète ». Est-ce que ce n'est pas ça l'extrémisme ? Parce que l'extrémisme, ce n'est pas même le président Macron qui dit « Qui a pu prévoir la crise climatique ?» Puisque voilà, dans l'idée d'extrémisme, il y a l'idée que oui, on va trop loin, donc forcément, on ne peut être que contre l'extrémisme. Mais est-ce que ce ne sont pas les actionnaires de Total ou le président Macron qui vont trop loin, en l'occurrence ? Et alors, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, celui de capitalisme. Est-ce que vraiment c'est être extrémiste que de remettre en cause les structures, les bases du capitalisme pour promouvoir un autre modèle qui serait moins productiviste, moins centré sur la croissance illimitée et davantage centré sur les enjeux de sobriété, le mot a été prononcé, mais avec une notion de justice sociale. Et en fait, c'est quand on prononce le mot justice sociale que très souvent la métaphore de la pastèque est évoquée pour faire peur en fait aux gens. Bon, voilà ma question. Merci pour vos réponses et merci pour vos interventions.
Elle est pour vous, celle-là, Frédéric Mott, je crois.
Le... Non, je l'assume. C'était plus pour vous provoquer un peu. Moi, je pense que c'est dans le processus démocratique où je vois justement des postures extrémistes, voire dans les fondements de leur idéologie, hein, quand on a, et qui ne respectent pas la différence et autres. Oui, pour moi, ça sont des extrêmes. L'économie de marché capitaliste et autres, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, à ce jour, moi, j'ai pas trouvé autre chose qui allait mieux. Moi, si vous voulez aller habiter en Chine, moi, c'est pas trop mon truc. En Russie, c'est pas trop mon truc. Au Venezuela, ça va pas fort. Ici, on a quand même une espérance de vie qui est peut-être pas top, mais elle a plutôt tendance à s'améliorer. Et aussi, l'espérance moyenne, j'en conviens, en moyenne, en bonne santé et autres. Les innovations technologiques et autres. L'autre jour, justement, vos allusions à l'Assemblée générale de Total, c'était marrant parce qu'il y avait aussi une petite vidéo. Donc, il y avait un actionnaire qui insultait une élue. Mais il y avait cette même élue là, qui nous faisait un grand discours. Mais on la voyait après avec son iPhone 12 sur les genoux. Et puis, on avait en face, elle avait taquiné une salariée de la salle Pleyel qui avait son sac Vuitton avec elle. Bah, est-ce qu'il vaut mieux avoir un iPhone qui a été fait en Chine ou est-ce qu'il fallait mieux avoir ce sac Vuitton qui a été fait en France par des salariés français, par une boîte qui va payer ses salaires et ses cotisations en France? Moi, je...
On vous laissera juge de la question.
Vous me provoquez un peu, je vous le réponds par la... Et donc, ça veut dire... Non, mais ce que le fin fond du truc, c'est... Moi, je crois que l'économie de marché, avec ses qualités et ses défauts, c'est le moins pire des systèmes. Et maintenant, c'est à nous, élus, de trouver le juste compromis. Mais les extrêmes, comme celles que je viens d'évoquer ou autres, oui, j'avoue, ça pollue plutôt la chose.
Disons que, en vers simple, c'est que, suivant l'usage du terme comme extrémisme ou populisme, de la part des personnes qui utilisent ces mots, c'est souvent pour occulter les argumentaires des adversaires. Donc c'est simple. Ce qui est extrémiste, à mon sens, personnellement, c'est un peu le déni de réalité d'actionnaires qui, dans leur rapport d'activité, dans leur rapport, disent, en gros, quand vous comparez ce qui va être émis par les projets qu'ils financent, c'est ça qui est extrémiste. C'est ça qui va rendre extrêmes les conditions de vie sur le territoire, sur la planète. Voilà. Ça, c'est ce qui est extrémiste. Ce n'est pas en soi l'activité militante des personnes qui se sont rassemblées le jour de l'Assemblée générale de Total.
Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question? Oula, plein de bras se lèvent, c'est merveilleux.
C'est juste un dernier mot. Bon, François, je suis un petit peu pas à l'aise en français, mais merci pour un très bon débat. Vous touchez tous les points, l'eau, les problèmes des plastiques, les problèmes des intérieurs en ordre. It's just my reflection. Je déménageais en Asie, ici. Je travaillais dans le produit luxe pour 20 ans. Je regardais tout qui est en dessous. Mais je remarquais que dans les images des Nord, c'est toujours industriel. Pourquoi les États pas améliorer? Parce que c'est le Nord qui est, quand vous traversez dans l'histoire, c'est les deux guerres mondiales, c'est ici. Les personnes qui travaillaient dans les grandes industries des textiles, c'est ici. Quand les changements, comme c'est avant-garde, comme les textiles, c'est ici. Mais maintenant, c'est les batteries qui sont avant-garde, c'est ici. Mais c'est les regards que je pensais avec, j'espère que vous comprenez, c'est l'image qui donnait le Nord. C'est toujours industriel, mais il y a beaucoup le tourisme impact. Il y a beaucoup comme les art impact. Pourquoi l'image n'a pas changé dans sept siècles?
En fait, la notion des représentations pendant des décennies fait que, historiquement, vous prenez le côté de fin des années 40 où il disait il faut faire que les mineurs descendent au charbon en quelque sorte pour sauver la France. Donc il y a eu toujours cet imaginaire de le territoire et va aider à reconstruire le pays dans différents temps historiques au cours du XXe siècle. Donc c'est resté dans l'impression. Néanmoins, vous avez néanmoins beaucoup d'acteurs depuis 20-30 ans qui ont été dans l'idée aussi de, en quelque sorte, je caricature un peu, du passé du pays noir au pays vert. Donc là, c'était un des porteur de Rêve 3, première version. Je vous dis, première version, en l'occurrence, au Jean-François Caron, c'est notamment décidé de, à partir de l'état des lieux qu'on constate, d'un passif industriel, comment on dessine une perspective globalement. Donc, des acteurs écologues ou des acteurs entrepreneuriaux ont voulu faire changer du pays noir au pays vert. Et finalement, moi, je ne suis pas en soi choqué par le terme d'industrie. Donc, que les territoires sont marqués par marqués Hauts-de-France ou Nord-Pas-de-Calais par le côté industrie, ce n'est pas tellement ce qui m'embête. Moi, je suis fier d'être dans un territoire industriel. Mais quel type d'industrie ? Voilà. Donc, la question de savoir, est-ce que c'est compatible tant localement que dans les pays environnement, que dans les 5, 10, 15 ans. C'est ça qui m'intéresse et qui intéresse les débats sur le territoire régional et les débats qui arrivent sur le projet de loi industrie verte. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que c'est un oxymore, industrie verte ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le terme, concrètement ?
Le point important de la genèse de ça, c'est pas nous, hein, c'est géologique. Pourquoi ça a démarré ici ? Parce qu'il y avait du charbon. Du charbon, il n'y en a pas en Bretagne. Et donc, c'est le pays qui, alors, bien malgré lui, c'est peut-être trop réducteur, mais le charbon, il était ici. Et donc, la révolution industrielle, elle s'est faite à partir d'ici. Et pourquoi on a eu la sidérurgie ? Parce qu'il y avait l'énergie. On est un peuple de marchands, c'est l'Europe du Nord, etc. Et donc, on avait à la fois l'eau, on avait l'énergie. Et ben, vous avez eu, et comme on était déjà dense en termes de population, on a eu le textile. Et donc, le choix que l'on fait aujourd'hui, c'est de se dire justement comment on peut transformer ces métiers. C'est la résilience du territoire. C'est quand même incroyable de faire renaître des nouveaux métiers. Et quand on se dit, ben, on fait le pari de nos usines de batteries, c'est parce qu'il faut donner du boulot à tous ces gens. C'est quoi ? Vous leur dites, on veut plus d'industrie, on veut plus de vous. Donc, c'est trouver le bon compromis. Et donc, c'est à la fois développer le tourisme. Maintenant, on n'est pas le midi de la France, mais c'est 8% à peu près du PIB chez nous. Ben, c'est, je crois, 37 000 emplois. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça commence comme ça. C'est les emplois tertiaires. Et dans ces usines de batterie, moi, je crois beaucoup à la compétition des territoires. Le défi des années à venir, c'est justement d'attirer les femmes et les hommes, d'attirer les talents. Qu'est-ce qui fait que mes enfants vont rester s'installer dans le Nord ou ils ne vont pas plutôt aller dans un autre pays ou dans le sud de la France ou en Bretagne ? Et donc, comment, et c'est le job d'élu, le côté passionnant aussi, c'est comment je fais l'aménagement du territoire. Ce n'est pas parce que vous mettez la plus belle des usines au milieu d'un désert, ça ne va pas marcher. Hein. C'est je viendrai dans cette usine-là parce que j'ai à côté mon logement, j'ai mes loisirs, j'ai ma santé, etc. Je peux faire du sport, je peux faire de la culture. Et donc, c'est comment on peut chacun, dans nos compétences, au niveau des élus, créer l'environnement culturel, l'environnement artistique, l'environnement sportif, qui fait que je me trouve bien dans ce territoire, mais j'y ai aussi un boulot. Et idéalement, c'est que ces nouvelles industries, elles intègrent ces défis de la décarbonation, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On va... Pardon, je vous en prie.
Je ne sais pas si vous entendez. Oui, voilà. Je voulais rejoindre un peu madame quand même, parce que quelque part, oui, la réindustrialisation, c'est un enjeu national qu'on se pose actuellement. Et sur notre territoire, on a ce passif historique qui fait qu'on se pose la question de la réindustrialisation ici. Mais il faudrait aussi qu'on se pose la question que ce territoire puisse devenir le territoire de la reconquête de la santé et de la biodiversité, en plus de tout le reste. Parce qu'on peut avoir une autre image. On part de bas, on a des difficultés, on a un passé historique, vraiment, qui nous pose là plutôt en démonstrateur, je pense.
C'est des challenges passionnants là-dessus. La région de France qui mise le plus sur la culture, c'est ici. Parce que justement, on est aussi, malheureusement, la région de France où le niveau de formation moyen est le plus faible. Et donc, comment on aide à transformer. Petite anecdote, la région de France où vous avez la plus faible densité d'entrepreneurs aux 1000 habitants, alors qu'on est toujours le Nord, c'est une région d'entrepreneurs, et c'est ici. Parce que c'est le fruit de notre culture du salariat qui fait que pendant 10 générations, tu auras le boulot de ton père, de ton grand-père, etc. T'inquiète pas, il y a une colonie de vacances, il y a l'église, etc. C'est comme ça. Ça a marqué nos territoires. Du coup, quelle est la région de France qui a la densité d'associations la plus faible, alors qu'on a des carnavals, des machins et autres ? C'est ici. Parce que pour créer une association, il faut être créateur. On a moins de créateurs, on a moins d'associations. Bref, il y a toute une série d'éléments, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'y résoudre. Et donc, dans cette qualité de vie, justement, c'est d'avoir du boulot, mais c'est une partie. En moyenne, dans votre vie, vous travaillez 10% du temps. Donc, les 90 autres, si on veut attirer les ingénieurs, les familles, les salariés, les investisseurs, etc., les chercheurs et autres, eh bien, ils sont demandeurs d'avoir un environnement où j'ai du vert, j'ai de la biodiversité, j'ai de la culture, j'ai du sport, j'ai de l'art, etc.
C'est entendu. On va prendre la question suivante, s'il vous plaît.
Oui, juste si on peut faire un petit peu bref, parce que ça va être bientôt la fin. Donc... Bonsoir. Merci pour la qualité de vos échanges. Enfin, vraiment, c'est passionnant. J'ai beaucoup entendu parler du Dunkerquois, donc c'est votre coin. Ben, j'ai un ami qui y habite, et puis j'ai trouvé un truc extraordinaire les dernières fois où je suis allé à Dunkerque, c'est la gratuité des transports en commun. Vraiment, alors je ne sais pas à quel niveau de cette décision se prend, si c'est municipal, etc. Je ne sais pas. Ma question, c'est est-ce qu'on a pu mesurer aujourd'hui ce que ça avait comme impact sur l'émission de carbone, par exemple? Est-ce que ça l'a fait descendre? Deuxième chose, est-ce que ça a un impact au niveau du déplacement des gens qui ont du mal à se rendre au travail sans véhicule, etc. On sait la mobilité, enfin moi j'habite Roubaix, je sais que la mobilité c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis ma troisième question, c'est pourquoi, enfin ou je ne sais pas, à quel niveau on pourrait prendre une décision pour que par exemple sur l'île ou l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais par exemple, on puisse avoir ce genre de choses. Parce que moi je trouve ça un peu formidable, mais voilà, ma question est peut-être un peu naïve. Hein.
Non, elle n'est pas naïve. Non.
Pareil à Douai.
Oui, elle n'est pas naïve. Pour le Dunkerquois, la décision a été prise par la communauté urbaine de Dakar, qui est organisatrice des transports et de la mobilité. Globalement, le succès de l'opération ne s'est pas basé simplement sur la gratuité. C'est basé sur refaire totalement le réseau. Je précise bien, totalement le réseau. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été changé depuis des décennies, globalement, là-dessus. D'où le fait aussi de faire que les constructions se font le long des principales lignes de bus pour rendre compatibles les choses. Et donc, en termes de chiffres, de taille, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a aussi un observatoire du transport gratuit qui existe. Néanmoins, les premiers chiffres, en tout cas de part modale, fait qu'on progresse assez nettement là-dessus. Et c'est, rappelons que c'est une politique de mobilité et aussi une question de politique de justice sociale pour accéder à un emploi ou accéder à des loisirs et pas être en mode assigné à résidence. Donc, la question de la politique, c'est pour ça répondre à votre interpellation sur l'action de justice sociale, une transition écologique digne de ce nom est forcément, à mon sens, de justice sociale pour effectivement relier la question de la fin du mois à la question de fin de vie. Je caricature un petit peu là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du territoire, la MEL, par exemple, là, c'est vraiment la MEL qui est autoritrice des transports. Il y a eu déjà des débats sur les moins de 18 ans, si on est gratuit, dans mes souvenirs. Ça se vaut sur le territoire régional est parsemé d'autorités organisatrices, Calais, Douai, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau que ça se joue globalement. Mais j'insiste, il faut aussi que le réseau soit refait, que l'urbanisation, donc il y a une question d'aménagement du territoire. Parce que vous rendiez gratuit le transport en commun, ça n'a pas changé grand-chose sur quelqu'un qui habite dans les WEP. Je caricature à peine. Voilà. Ou quelqu'un qui a des problèmes de mobilité intrinsèque, d'emploi. Voilà. Donc c'est une question d'aménagement du territoire. Ce n'est pas qu'une question de gratuité. Et pour l'action de la gratuité au niveau des TER, là, je laisserai la parole à mon voisin.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Oui, juste très bref. Ce sont des vrais choix politiques parce que derrière, les critiques principales qui sont faites sur la gratuité des transports en commun, c'est que ça ramène aussi du pognon qui permet de réinvestir dans les transports en commun. Et donc, si je ne touche plus cet argent, c'est de l'argent que je n'ai pas. Et donc, je vous disais, le TER, nous, on y met un max de pognon, mais vous ne payez que 25% de votre billet. Et donc, demain, on ne toucherait même pas ces 25. Ouais, c'est encore... Alors après, ça peut être un choix. Chacun est libre. À Dunkerque, qui était... Bon, quand on regarde, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interco qui ont fait ça. Donc, c'est que lui, il avait le bon calibre, la bonne organisation urbaine et autres. Mais donc, c'est, oui, l'aménagement global. Mais c'est dire, je fais un choix. Je ne fais pas d'autre solution, mais je mets mon pognon là-dessus.
On va peut-être prendre le temps d'une toute dernière question, brièvement, si c'est possible, mais sentez-vous libre quand même de vous exprimer. Tout devant.
Vous avez dit de mettre un pull dans le mail. Bon.
Oui, ça marche.
Vous voulez que je vous passe le sec ?
On va faire une pause veste de 5 secondes.
Okay, vous écoute. Merci beaucoup du coup pour ce débat qui était vraiment très intéressant. Du coup, moi je suis calaisien, donc j'habite sur la côte. C'est une région où on voit au final les effets assez concrets déjà maintenant du réchauffement climatique, que ce soit sur l'érosion ou sur même le recul de la dune ou des falaises. Si vous êtes habitué de la côte, vous connaissez forcément la dune d'Aval à 800 qui recule de plus en plus vite. Et du coup, j'ai deux questions. Enfin, une question à la fois sur le côté plutôt environnemental et une question sur le côté politique. Est-ce qu'il y a des moyens justement de, comment dire, de préserver le littoral par des moyens environnementaux, je pense notamment à la réimplantation d'oya ou d'autres espèces végétales, et notamment de préserver donc le littoral qui est forcément de plus en plus fragile, à la fois par l'érosion, la montée des eaux d'un côté, et par le développement de phénomènes extrêmes. On pense notamment à la tempête Xynthia qui a eu en Vendée et qui pourrait se reproduire potentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et côté politique, est-ce qu'il y a justement des politiques d'aménagement du territoire à faire? Est-ce que la région peut agir dans ce domaine-là? Et comment dire aux habitants aussi, par exemple, dans des territoires qui peuvent justement être en danger imminent, en tout cas par rapport à l'érosion, à la montée des eaux, comment dire aux habitants en fait qu'ils doivent partir, par exemple?
Question intéressante et complexe.
Sur la protection par les dunes, oui, tout le territoire littoral est essentiel à la protection de l'arrière littoral, et la dune flamande est absolument indispensable en particulier. Alors ça, c'est quelque chose qui est maintenant très développé, notamment chez nos voisins néerlandais qui savent un petit peu mieux encore que nous comment faire. Et oui, il y a des moyens de gonfler un petit peu la dune, de la faire perdurer. Alors les plantations d'oya, c'est une chose parmi tant d'autres. Après, on ne doit pas trop la fixer non plus, parce que si on la fixe trop, elle a plus de dynamique et du coup, elle est plus vivante et ça ne marche plus non plus. Enfin, voilà, bon. Donc c'est encore un petit truc un peu subtil, mais non, oui, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Mais en effet, c'est un territoire qu'il faut une zone qu'il faut absolument préserver complètement, et c'est entre autres pour ça que le conservateur du littoral a le droit de d'implanter des structures n'importe comment non plus.
Alors, pas pour me défausser, parce que c'est les compétences des communes, mais nous, région, quand il y a des aménagements qui sont faits, et le conservateur, on met du pognon, parce qu'on est convaincu qu'évidemment, ça fait partie d'une partie de la solution, parce que l'autre partie de la solution, c'est notre Arcelor dont on a parlé tout à l'heure, c'est notre mobilité, c'est nos transports en commun. S'il y avait un truc tout seul pour sauver la dune d'Aval à 800, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc, et là, c'est extrêmement compliqué, hein, parce que aller dire aux habitants qui habitent en front de mer à 800, on va raser votre maison et puis on va aller reconstruire une dune, etc. et autres. Vaste. D'où l'importance, quand je parlais d'appropriation citoyenne, c'est la nécessité de sensibiliser, d'expliquer. Il faut faire, moi je pense, extrêmement attention, et c'est pour ça que vous évoquiez à juste titre tout à l'heure les solutions simplistes ou dogmatiques. C'est plus compliqué que ça. Et parce que justement, sous couvert de ça, il y en a peut-être qui seront tendance à dire, mais si, il n'y a qu'à faucon, ça ne marche pas trop. C'est trouver le juste équilibre. Et donc le job d'élu, mais le job de parent, le job d'enseignant, le job de chef d'entreprise, il est vachement compliqué pour entraîner tout le monde, pour que petit à petit, on puisse... Alors, de temps en temps, il faut provoquer un peu. La loi, quand elle nous dit ZAN, on n'a pas le choix, c'est de la contrainte. Quand nous, à la région, on met de la conditionnalité en disant, madame, monsieur le maire, je ne vous donnerai pas mon pognon si votre projet il n'est pas F3, je crois que c'est comme ça aussi qu'on va donner, on va se donner tous collectivement du courage pour essayer de faire bouger les lignes.
Juste en fait deux éléments pour ce qui est de la recherche, notamment effectivement au niveau de l'université littorale de Côte-d'Opale, qui a eu beaucoup de recherches sur le site de Calais et Dunkerque là-dessus, notamment pour la protection et l'évolution des zones dunaires. Donc là, il y a eu beaucoup de recherches depuis des années là-dessus. Après, en deuxième point, sur l'aspect appropriation citoyenne, et là je rejoindrai mon voisin, c'était à l'AMRES ou dans des réseaux associatifs, il y a eu souvent des démarches sur, par exemple, l'île plus 2 degrés, Dunkerque plus 2 degrés. C'est-à-dire de quelle manière on montre une carte, un A3 en quelque sorte, aux habitants en disant comment vous vous projetez dans 5-10 ans de votre environnement au quotidien. Et là, on le fait par atelier pour que les gens ne soient pas en mode éco-anxiété et qu'ils arrivent à se projeter. Voilà, donc la question c'est toujours pour de quelle manière les gens, un, soient informés au niveau d'information et surtout de collectivement de se projeter. Donc on a fait beaucoup de travaux sur Dunkerque plus 2 degrés parce que c'est un territoire avec un polder, genre comment sa maison elle évolue et comment ils voient leurs enfants grandir dans un territoire vulnérable. Donc là c'est plutôt une question de sensibilisation perpétuelle, donc au-delà, et je terminerai par là, au-delà des questions technologiques, c'est une question de toujours d'éducation au quotidien, de sensibilisation et d'acculturation, et qui doit être un peu récurrente.
Et c'est pour ça que la région, on subventionne AMRES. Parce que nous, on ne peut pas aller en direct voir tout le monde. Et le milieu associatif est un bon vecteur pour aller faire ce travail.
Je vous propose qu'on reste sur cette question. Question qui est très intéressante puisqu'elle fait écho à un des premiers épisodes dont perd le Nord face à la montée du niveau de la mer.
On va gagner le Nord,
Frédéric Motz, on espère. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre présence ici ce soir. La soirée n'est pas totalement finie. Si vous le souhaitez, vous pouvez notamment soit rester sur le pont, soit redescendre dans la cale où on a un bar, on a un peu de quoi manger, de quoi grignoter. Donc n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps avec nous si vous souhaitez poursuivre la discussion, poursuivre les échanges. Et je vous invite évidemment bien sûr à écouter, si vous avez l'occasion un jour, On perd le Nord, c'est sur Spotify, sur Deezer. Toutes ces questions, on les aborde, on aborde d'autres aussi. Donc n'hésitez pas. Merci à vous et merci à nos trois intervenants. Donc, je le rappelle, Frédéric Motz, Paulo Serge Lopez et Nina Hotkit. Merci pour la qualité de cet échange.
Alors, on a juste un tout petit mot de Bruno du bus magique qui nous présente en quelques mots le concept.
Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à On perd le Nord d'avoir choisi ce lieu pour faire leur dernier podcast ici. C'est un plaisir parce que nous, du coup, on est une asso. Donc on a une partie bar restauration qui va être qu'avec des ingrédients et des produits bio locaux qu'on choisit spécialement pour ça, qui va permettre de faire vivre le lieu. Mais derrière, on a toute une équipe de bénévoles qui travaillent sur les thèmes de l'écologie, de l'inclusion sociale, mais aussi de la culture locale. Donc on fait des concerts d'artistes locaux, des expositions d'artistes locaux, des ateliers sur l'écologie. Et le mois dernier, on a fait notre premier atelier apprentissage de la langue des signes française, et c'était plutôt un bon succès. Donc voilà. Tous ces ateliers, tous ces concerts sont gratuits. L'idée, c'est que ce soit le plus inclusif pour tout le monde. Voilà. Il y a juste une adhésion à faire qui a pris libre pour que ce soit encore plus inclusif. Voilà. Merci.
Donc voilà, le bar est ouvert. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a grignoter aussi sur la terrasse.